Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
À la famille, l'été et ses grandes vacances sont souvent l'occasion de temps de famille, de temps bénis comme disent les croyants, mais aussi de temps qui ne sont pas toujours sans nuages. Si la famille est largement plébiscitée par les Français comme ce qui leur est le plus cher, la vie de famille est rarement un long fleuve tranquille comme le dit cette fois le film du même nom. Alors Dieu peut-il changer nos vies de famille? A-t-il réellement un pouvoir sur cette réalité? Comment le laisser agir, notamment dans les situations douloureuses? Peut-il nous aider à construire une famille profondément heureuse et unis, c'est en tout cas la conviction de mon invité de ce matin. Aimer sa famille comme elle est, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Et j'ai fait simple puisque j'ai repris le titre d'un de vos ouvrages, Joël Pralon. Bonjour, pour commencer.
Bonjour.
Voilà,
bonjour.
Vous êtes prêtre supérieur du séminaire de Sion en Suisse, auteur donc d'un ouvrage Aimer sa famille comme elle est, paru aux éditions des Béatitudes. Et vous êtes en duplex depuis Radio Fribourg.
Fribourg, oui.
Fribourg, exactement. Donc en Suisse, pour ceux qui ne le sauraient pas. Écoutez, très heureux de vous recevoir. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages.
Merci.
On les citera au long de cette émission. On sent que voilà, vous êtes un prêtre qui aime l'homme, et on va dire au sens large, et qui essaie de lui donner des clés pour vivre et pour mieux vivre. Je vais commencer par une question un peu triviale, peut-être. On imagine qu'un prêtre aussi a une famille. L'été, est-ce l'occasion pour le prêtre que vous êtes de prendre des temps en famille? Et les temps en famille, pardon de ma question s'il est un peu indiscrète, sont-ils aussi en clair-obscur, même quand on est prêtre?
Bien sûr, l'été, je voyage beaucoup pour l'évangélisation. J'ai été 4 semaines au Brésil cet été. Sinon, je vis une vie de communauté dans le séminaire. C'est déjà une petite famille. Et puis les amis, ma propre famille, c'est aussi important. On retrouve les mêmes difficultés, les mêmes joies, comme dans toute vie communautaire, finalement. La famille, c'est la cellule, c'est la première communauté.
Alors Joël Pralon, vous accompagnez donc les couples comme tout prêtre qui se respecte.
Oui.
Mon autre question d'introduction, ça serait comment vous voyez la situation actuelle? On imagine qu'en Suisse, la situation est un petit peu équivalente à celle de la France. Il y a toujours en fait un regard contradictoire sur la famille, en tout cas vu de l'Hexagone. C'est à la fois une réalité que plébiscitent les Français, même les jeunes générations, et en même temps c'est une réalité qui souffre, hein. Vous rappelez ce chiffre, 45% des unions aujourd'hui et qui finissent en désunion.
C'est-à-dire que la famille est bombardée aussi de théories nouvelles comme la théorie du genre, par exemple, où on parlera même plus de papa et de maman, mais de parent 1, de parent 2, puisque vous connaissez cette théorie. Je décide d'être qui je ressens, que je sois homme, femme, je choisis mon orientation sexuelle, enfin, etc., etc. Et pour moi, cette théorie, c'est le symptôme d'une société sans père et sans repère. Donc, c'est les personnes à la sartrienne, on va dire Jean-Paul Sartre, qui vont poser les jalons de leur propre vie à partir de leur subjectivité. Donc, il n'y a plus de vérité objective, il n'y a plus de sagesse. On vit dans une société où on a bousillé la sagesse. C'est-à-dire une vérité sur l'homme, sur la famille, sur le monde. Et là, je pense qu'on arrive à des situations de famille de plus en plus éclatées, où elles sont bien seules, ces familles, quand elles sont confrontées à des problèmes internes, à prendre les bonnes décisions, puisque chacun finalement décide en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent. Et je pense que là, c'est un peu le drame de la famille, ce manque de père et de repère. Nous étions, jusque dans les années 60, dans une société patriarcale, où les points de repère, on va dire, décidaient tout. On n'avait pas assez mis l'accent sur la subjectivité, sur la personne. Et aujourd'hui, on est passé dans le sens contraire. Donc, c'est toujours le mouvement du
pendule.
Du balancier.
Voilà. Alors,
dire, oui.
Au début de votre ouvrage, donc, vous ne vous lamentez pas, vous commencez tout votre livre par un descriptif du projet de Dieu sur la famille. Comme on en parle souvent à cette antenne, le propos est de ne pas tout redire, mais j'ai grappillé quelques-unes de vos expressions ou quelques-uns de vos propos, et j'aimerais commencer par celui-là. Alors, ça n'est pas de vous citez à Maurice Laetitia, donc l'exhortation apostolique du pape François. sur la famille qui a fait tant de bruit dans toute l'Église. Notre Dieu, dans son mystère le plus intime, n'est pas une solitude, mais une famille. Est-ce que vous pouvez commencer par rappeler cette réalité et surtout essayer de l'expliciter ? Dieu est une famille.
Eh bien, déjà dans le livre de la Genèse, chapitre 2, quand on parle de la création de l'homme et de la femme, il y a un verbe qui a été d'ailleurs bien commenté par les pères de l'Église, « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », faisons au pluriel. Et à la lumière du Nouveau Testament, on peut déjà voir en Dieu une communion d'amour. Et l'homme et la femme à son image, c'est cette première communion d'amour, justement, ouverte à une fécondité. C'est pourquoi l'homme et la femme sont image de Dieu en tant qu'ils sont communion d'amour, et c'est cette communion d'amour qui donne la vie, qui engendre la vie, qui fait exister, capable aussi de réparer là où c'est brisé, à condition qu'on aille toujours puiser au plus profond de son cœur pour atteindre le cœur de Dieu, les ressources dont nous avons besoin.
C'est une réalité, on va dire, qui est la foi des chrétiens, mais Dieu est une famille. J'ai envie de dire, est-ce que ça vous arrive en fait d'inviter les couples à contempler cette réalité pour aussi nourrir leur amour ou pour le guérir, parce que même parfois chez les chrétiens, on peut avoir une forme de déisme dans le fond et ne pas vivre ou ne pas contempler cet amour trinitaire.
Alors moi, avec les couples, la plupart, je pars de leur quête, de leurs questions d'aujourd'hui en lien avec notre société. On rejette plus ou moins l'Église aujourd'hui ou le catholicisme, mais la plupart des gens sont en quête de sens, sont en quête de but ultime, de transcendance. Moi, je pars de là. Je pars de là en disant, vous vous rendez bien compte que vos cœurs ne sont jamais rassasiés, même par le plus grand amour qui est sur votre chemin. C'est comme si ce grand amour vous amenait à toucher les limites de cet amour et à vous poser les vraies questions. Est-ce qu'on va une fois trouver dans la vie un amour qui va nous rendre heureux pour toujours, sans qu'il faille toujours recommencer, sans qu'il faille toujours buter contre nos limites ? Et il y a une réponse qui est déjà dans le cœur, mais qui est révélée aussi par Dieu. Ce grand amour existe. Comme le dit si bien saint Augustin, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur sera sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Et là, donc, il est même logiquement dans le raisonnement, il est tout simple de poser l'existence d'un être supérieur révélé ensuite comme amour, qui peut combler nos cœurs et qui nous attire toujours plus loin dans cette quête de sens. Je pense qu'il faut vraiment partir de cette quête de sens pour arriver à communiquer une révélation, celle de ce Dieu amour, celle de cette communion d'amour. Il faut toujours partir de ce que les gens vivent, de ce qu'ils expérimentent, pour que l'intelligence accepte finalement ce que le cœur réclame. Parce que cette quête de sens, c'est d'abord une quête du cœur.
Alors vous avez une expression, donc nous avons en nous l'ADN de Dieu. Très belle expression. J'ai relevé autre chose dans votre livre. Vous parlez de la vraie famille de Jésus. C'est un très beau passage. D'ailleurs, dans votre livre, vous égratignez un peu, on va dire, les familles bon chic, bon genre, comme vous les appelez, qui vous nous expliquerez ce que vous mettez derrière cette expression, qui en tout cas, à vous entendre, peuvent donner l'impression d'être déjà arrivés. Qu'est-ce que vous entendez par la vraie famille de Jésus?
Eh bien, je cite la parole de l'Évangile, par exemple Luc 8, 19-21. Qui est la famille de Jésus? Vous savez, les apôtres Marie viennent le chercher en disant, mais enfin, ta famille est là, elle t'attend, tes frères, tes sœurs. Et Jésus regarde tout le monde en disant, mais qui sont mes frères, mes sœurs, ma famille? Est de ma famille celui, celle qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Je pense que la vraie famille de Jésus, c'est cette famille où tout le monde est accueilli. Autant les gens mariés que les gens non mariés, autant les couples blessés que les gens qui sont en quête de vérité. Je pense que la famille de Jésus, on va dire la famille du ciel, est beaucoup plus large que la petite famille de la terre qui disparaîtra un jour pour communier à la grande famille du ciel. Je pense que si la famille de la terre est image de Dieu, c'est pour nous faire aller plus loin, pour nous faire entrer dans la réalité de Dieu, là où cette communion d'amour est offerte vraiment à tout le monde.
Alors, c'est ça que je veux dire. Ce que vous laissez entendre, c'est qu'en fait, cette vraie famille de Jésus, on pourrait en faire partie quelque part à son corps défendant, c'est-à-dire en fait tous ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu de manière consciente ou inconsciente font partie de la vraie famille de Jésus et pas forcément ceux qui ont l'impression d'avoir tous les galons.
Je pense là où sont amour et vérité, dit l'hymne, Dieu est présent. Moi, je pense que ce qui restera à la fin, nous dit saint Paul en Corinthiens 13, c'est la charité. Il n'y aura même plus besoin de la foi ni de l'espérance. Seulement la charité demeurera. Et on sera étonné de l'autre côté de découvrir que ceux qui pensaient être premiers risquent d'être derniers et vice-versa. Hein. Il y a cette belle parole de Dostoïevski que j'aime bien citer. Il décrit la fin des temps et s'avanceront les sages, les intelligents d'aujourd'hui et diront, mais enfin Seigneur, pourquoi reçois-tu cela alors que tu sais bien qui étaient ces gens-là? Et Dostoïevski fait répondre au Seigneur et le Seigneur se tournera vers les sages et les intelligents et leur dira, je les reçois, ô vous les sages, ô vous les intelligents, parce que ce sont les seuls qui ne se sont pas sentis dignes d'être aimés, d'être acceptés. Et je pense que l'on sera étonné de la grande famille de Jésus.
Vous avez donc un passage dans votre livre qui dit la chose suivante, la vraie famille de Jésus, ce n'est pas cette famille bon chic, bon genre, qui pense ne pas avoir de problème et qui se prend à juger les autres. Non, la vraie famille, oui, c'est cette famille brisée ou unie qui cherche constamment la volonté de Dieu. Vous parlez du modèle aussi que l'Église nous donne, qui est la Sainte Famille, et ça fait du bien de lire ça dans la bouche d'un prêtre. Vous dites qu'on peut parfois tomber de sa chaise en fait quand on entend ce modèle qui paraît bien lointain ou relativement inaccessible, et à vous lire en fait on a l'impression que c'est pas plus mal, c'est-à-dire que ça serait comme une vision en fait qui nous entraînerait comme un idéal à poursuivre. Comment est-ce que vous expliciteriez ce modèle qui est donné à l'Église et les questions que vous posez? Vous dites la famille de Nazareth hors norme.
Oui. Eh bien, elle était hors norme, des normes de leur temps, puisqu'on le voit bien, Joseph se pose la question, mais enfin, d'où vient cet enfant que porte Marie? Il décide de la répudier pour qu'elle ne soit pas traînée sur la place publique, mais aussi Joseph est un homme juste, hein, il veut comme remettre ce secret qui habite Marie au secret de Dieu. Il sent bien que quelque chose le dépasse. Et là, il fait confiance à la foi. Mais ils sont hors norme, cet enfant avant qu'ils aient habité ensemble, déjà cela, cet enfant qui va provoquer tout plein de massacres, le massacre des innocents. On peut se remettre dans la peau de Marie qui a dû se dire, lorsqu'on est venu lui annoncer, mais tu sais, tous ces enfants qu'on massacre, c'est à cause du petit que tu portes dans tes bras. Ils ont dû être effondrés, cette famille qui est une famille de migrants aussi, qui part, qui quitte, qui doit aller en Égypte, qui doit se réfugier. Si on regarde les familles d'aujourd'hui, on peut trouver dans la Sainte Famille, non pas tellement cette famille idéale, mais qui était aussi confrontée à des problèmes externes et à des problèmes internes. Parce que sinon, le modèle de la Sainte Famille n'est que pour les gens bon chic, bon genre. Mais est-ce que ça existe, les gens bon chic, bon genre? Moi, je vais quand même souligner ce que j'entends par cela. Hein. Bon chic, bon genre, c'est ces familles qui se croient tellement dans les règles de l'Église en faisant la morale aux autres. C'est dans ce sens-là. Il y a aujourd'hui aussi comme une montée dans l'Église d'une certaine dureté de nouveau sur la morale, sur la règle, et qui diffuse très peu de miséricorde. Et là, on doit faire attention, on doit toujours relire les évangiles et voir comment Jésus s'est comporté avec chacun.
Voilà, vous êtes du coup, en tout cas sur ce sujet, un écho aux propos du pape François, à ses multiples exhortations. On peut lire ça au long de votre ouvrage. J'aimerais qu'avant qu'on fasse une première pause musicale, que vous nous parliez de la grâce que vous avez reçue au mariage d'Aude et de Cédric. C'est un couple donc que vous avez préparé au mariage et puis vous avez célébré leur mariage. J'ai cru comprendre qu'elle était chrétienne et que lui était en chemin. Et il y a eu une grâce très singulière en fait qui vous a profondément marqué lors de la célébration de ce mariage. Racontez-nous.
Oui, c'était une époque où j'avais de la peine avec ce sacrement, je dois l'avouer, parce que beaucoup de couples que j'accompagnais, c'était dur, dur, quoi. On n'avait pas l'impression qu'ils crochaient au niveau spirituel. Et puis souvent, ces célébrations, c'était passablement folklorique. Et c'est vrai que ce couple était particulier parce que vraiment en quête de vérité. Et le mariage a eu lieu dans la montagne, puisque je suis au pied des 4000 en Valais, qui jouxte à la Savoie. Et je me disais, mais pour ce couple-là, les mots vont sortir tout seuls. Et j'essayais de préparer la célébration, l'homélie, mais rien ne me venait. Et moi qui ai la parole facile, mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Et au moment où je vois ce couple arriver autour de l'hôtel, devant une petite chapelle de montagne, et les gens se massaient autour de cette chapelle, j'ai été comme saisi d'émotion. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. J'ai compris par la suite que c'était une émotion spirituelle, même si je ne suis pas du genre très mystique, plutôt mystico-comique, qui aime bien les plaisanteries. Mais là, je plaisantais pas et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens touché par une émotion profonde et les mots, les idées d'Homélie ne me venaient toujours pas. Et je me suis dit, bah, il faut que je commence quand même cette célébration. Et plus je m'approchais de ce couple, plus je les voyais lumineux. Vous savez, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et plus je me rapprochais, plus cette lumière brillait fort, plus j'étais pris par l'émotion. Et je voyais que tout le monde était saisi d'une émotion que je n'avais jamais remarquée jusqu'à maintenant. Et en célébrant l'Eucharistie, les personnes qui faisaient les lectures se mettaient toutes à pleurer. Et je me suis dit, mais alors vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? Et je m'approche de ce couple, je les voyais dans la lumière, et au moment où je lis l'Évangile, moi aussi, je m'effondre en larmes. C'était une grâce tellement forte, c'était un amour puissant qui était lumineux. Et par la suite, les me sont sortis de l'intérieur.
Voilà, on vous a perdu. C'est les aléas du direct. On va faire une première pause musicale. En tout cas, on a compris cette grâce que vous avez reçue. Vous dites que vous a été révélée à cette occasion comme le mystère du mariage, la présence et l'amour puissant de Dieu, l'amour éternel de Dieu au cœur du mariage humain. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Aimer sa famille comme elle est, quelques astuces, paru aux éditions des Béatitudes. On vous retrouve dans quelques minutes.
Présence.
Aimer sa famille comme elle est, quelques astuces, c'est donc le titre de l'ouvrage de notre invité de ce matin pour une émission du même nom, Aimer sa famille comme elle est, ouvrage donc paru aux éditions des Béatitudes. Nous sommes avec Joël Pralon qui est prêtre supérieur du séminaire de Sion en Suisse et donc en duplex depuis Radio Fribourg. Alors on a eu un petit pépin technique avant la pause, vous vouliez du coup compléter à propos de cette grâce reçue. Vous nous avez décrit donc une grâce étonnante qui vous a été donnée à vous et à l'Assemblée à l'occasion de ce mariage. Mais qu'est-ce que vous en avez compris de ce qu'est le mariage ?
Eh bien, le Seigneur, au fond, me faisait comprendre qu'il était capable de passer vers les autres et d'agir au-delà de ma perception et de ce que moi je comprenais. Et là, il n'y a que l'amour. Hein. J'ai vu ce couple, mais enveloppé de cette lumière qui n'est qu'amour. Et combien, s'il savait, lors de ce sacrement, cette lumière est puissante. Puis, pour terminer l'histoire, quand j'ai revu ce couple, hein, ils m'ont dit « nous aussi, on a vécu cela ». De manière très profonde, on ne savait pas ce qui nous arrivait. Et dans la famille, il y avait un couple qui avait rendez-vous chez l'avocat la semaine suivante pour entamer les procédures de divorce et qui a renoncé à ce rendez-vous, qui ont tellement été touchés et transformés qu'ils ont repris la vie commune. Donc c'était vraiment un fruit. Donc le Seigneur agit, hein, même si ce n'est pas de manière sensible qu'on le perçoit, mais il agit, j'en ai eu la certitude. Et puis j'ai été plus humble quant à cette préparation du sacrement du mariage et dans ma compréhension justement.
Alors vous évoquez aussi dans votre ouvrage, cet ouvrage il faut le dire, hein, qu'on peut lire en picorant, il y a de multiples entrées, voilà, on peut le mettre sur sa table de chevet et puis s'en servir comme d'un médicament, avec une posologie, on va dire, variée. Vous évoquez aussi la situation des couples divorcés et remariés, oui, des couples séparés, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez d'ailleurs écrit deux ouvrages sur ce thème. Je cite le dernier, « Les divorcés remariés invités à la joie de l'amour » du pape François. C'était aux éditions Saint-Augustin en 2017. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet ? On vous parlait souvent du pape François, vous nous dites que vous trouvez qu'il y a parfois dans l'Église un retour à un certain moralisme.
Légalisme, oui.
Légalisme. Comment fallait-il comprendre à Maurice Laetitia et quel a été, selon vous, le coup d'Esprit Saint du pape François sur ce sujet ?
Alors, là, c'est vrai que c'est une immense question. Moi, je pense que d'abord, on ne rejoint pas des brisures, des couples divorcés, on rejoint des personnes. Et chaque situation est individuelle. Et dans chaque situation, il y a souvent des enfants et des enfants qui souffrent. Et on doit vraiment pouvoir accompagner et chercher, comme dans la toute pastorale, d'abord, le meilleur chemin qu'il soit pour la personne qui souffre, la personne qui est prise dans les douleurs, dans les émotions, c'est vraiment d'accompagner et de ne pas vouloir tout de suite bassiner un enseignement qui les écraserait. C'est ça le pape François. Quatre critères, quatre clés, je dirais, du pape François que je retiens pour toutes ces situations. Accueillir, et dans l'accueil, c'est écouter, ne pas juger. Accompagner, chercher avec la personne le meilleur chemin possible qu'il soit dans la situation présente. Discerner avec la personne ce qu'elle veut faire de sa vie, quel choix elle va poser. Et puis ensuite, intégrer la personne dans une famille, dans une communauté chrétienne, à condition que cette communauté ne juge pas et accueille avec miséricorde. Et puis c'est ainsi qu'on peut chercher dans toutes ces situations avec les personnes la vérité de l'Église, de les conduire à la vérité, mais pas à pas. Alors la nouveauté avec le pape François, pour caricaturer, je dirais, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des personnes divorcées qui choisissent aussi de ne pas se remarier avec la grâce de Dieu. Il faut aussi le dire vraiment comme un appel qu'elles ressentent du Seigneur. Ce n'est pas une loi dans la vie chrétienne, ce n'est pas des lois, c'est un appel. Le Seigneur m'appelle à ne pas me remarier parce qu'à partir de là, il a pour moi une mission nouvelle. Ça, je pense que c'est important. Je connais bien des couples et des personnes qui ne se remarient pas parce qu'ils ont senti cet appel. D'autres ne sont vraiment pas fait pour le célibat et qui décide de se remarier parce qu'il y a des enfants, parce que leur vie n'a plus de but, n'a plus de but, n'a plus de sens et qu'ils sont faits pour l'amour. Et qu'il faut aussi respecter ces gens qui se remarient aussi comme un appel au fond de leur cœur. On ne peut pas dire que c'est un appel de Dieu ou simplement un appel humain, mais le respect et aider ces personnes à vivre le mieux possible dans l'Église. La nouveauté du pape François, c'est de dire que la communion n'est pas réservée qu'à une élite, mais aussi à des gens qui souffrent. Et lui, en fait, la nouveauté, il demande aux pasteurs de prendre leurs responsabilités dans l'accompagnement et de discerner avec les personnes.
Alors, juste sur ce sujet, Joël Pralon, est-ce que vous nous expliquez un petit peu en Suisse comment ça se vit? Parce que, on va dire, moi, je n'ai pas une vision de l'ensemble de l'Église de France, évidemment. Oui. Mais en France, on a pu avoir l'impression qu'aussi, il pouvait être reproché au pape François d'ouvrir une porte qui nécessite un accompagnement profond, mais que la méthodologie de cet accompagnement ne soit pas toujours clarifiée, ou alors que tout le monde ne soit pas formé pour accompagner, ni né assez de temps pour accompagner tous les couples comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous dire à propos de ce qui se fait dans l'Église en Suisse sur ce sujet qui sont à souligner?
Oui. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ce que le pape François met dans Amoris Laetitia a été repris par les conférences épiscopales qui, eux, donnent leur directive aux prêtres. Alors, pour nous, c'est vraiment cet accompagnement dans le discernement. Alors, c'est vrai que ce qui manque, c'est la formation. Le danger, c'est d'ouvrir la porte à tout le monde. Je rappelle que la doctrine n'a pas changé. Les couples divorcés, remariés sont invités à la communion spirituelle. Et je connais des couples qui vivent une communion spirituelle très, très profonde par fidélité à l'Église et à la doctrine, mais parce que c'est leur choix, parce que c'est leur appel, et qui souffrent de ne pas pouvoir aller communier. Et je pense que ces gens-là, il faut aussi le souligner, doivent être une interpellation pour nous tous qui allons communier trop machinalement le dimanche, sans avoir suffisamment cette faim de l'Eucharistie. Et ils sont là pour nous le rappeler. Vous qui avez le droit, avez-vous vraiment faim de l'Eucharistie? Est-ce légitime, ces communions tous les dimanches, si vous n'avez pas la faim de l'Eucharistie? Ça, je pense qu'il faut souligner, et il faut encourager ces couples qui ont fait ce choix. Après, d'autres, suivant ce qu'ils ont vécu, ce qui demande un discernement, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, choisissent en lien et au bout de ce cheminement avec le pasteur, de pouvoir à nouveau communier. Mais c'est leur choix, c'est pas le choix du pasteur.
Mais je vous repose ma question, est-ce qu'en Suisse, est-ce qu'il y a un travail particulier qui a été mis en place pour accompagner la réception d'Amoris Laetitia?
Alors, à travers des sessions diocésaines, à travers des rencontres entre prêtres, oui. Mais j'avoue que pour l'instant, c'est encore pas ça. C'est encore trop léger. Pour moi, ça me pose toujours la question de la vraie profondeur du cheminement. Là, je pense qu'on a affaire effectivement à une difficulté. Moi, je pense qu'il faut toujours redire la doctrine de l'Église. Et puis, vraiment, vraiment, je pense que sont rares les personnes qui veulent vivre ce cheminement. Là, il y a vraiment une question pastorale qui se pose et une difficulté, effectivement.
Alors, je passe à une autre grande difficulté que peuvent traverser ou auxquelles peuvent être confrontées des personnes ou des familles. Ça peut donner l'impression à certains peut-être du passé du coq et l'âne ou de stigmatiser ces personnes. Je m'en excuse. C'est la question de l'homosexualité, de la déclaration de l'homosexualité dans les familles, d'un membre de la famille et puis de la manière dont elle le vit et après la famille le vit. Vous avez écrit aussi un livre sur ce sujet, Qui suis-je pour juger mon frère ? Reprenons là l'expression du pape François, c'était aux éditions Saint-Augustin aussi, mais en 2016. Commentez-nous peut-être pour commencer cette expression qu'a eu le pape, puisque j'ai découvert dans votre ouvrage qu'après il s'en est expliqué dans la Civiltà Cattolica, grande revue jésuite. C'était en août 2013. Il a explicité cette expression qu'il avait eue, Qui suis-je pour juger?
Oui, alors le pape dit quelque chose d'extraordinaire. Il s'intéresse aux personnes. Moi, je dis souvent, pour provoquer, l'homosexualité n'existe pas. Mais ce qui existe, ce sont les personnes. Et souvent, quand on dit homosexualité, on est dans la caricature. On pense tout de suite sexualité, enfin, etc., etc. Mais ce n'est pas ça du tout. Moi, je suis délégué par mon évêque pour accompagner des jeunes de mon diocèse qui se déclarent tels. Mais ce sont des personnes que je rencontre, assoiffées d'amour. Et celles qui viennent vers moi sont assoiffées de Dieu, elles sont en quête de Dieu. On chemine avec des personnes et on ne juge pas les personnes et on chemine pour chercher le meilleur chemin qu'il soit pour eux aussi. Plutôt que de parler d'homosexualité, il faudrait parler d'amour. Et c'est à partir de là qu'on peut tracer un chemin constructif. Il y a aussi de la valeur chez ces personnes qui n'ont pas choisi leur orientation. On ne choisit pas d'être hétéro ou d'être homosexuel. Tout d'abord, moi, la plupart des gens que je rencontre, des jeunes, c'est une souffrance qui les pousse parfois même au suicide. Mais il faut parler d'amour, il faut parler d'une personnalité qui est différente, une sensibilité à fleur de peau, qui peut être aussi très créative, qui peut être altruiste, où on voit beaucoup de personnes avec cette sensibilité engagées dans l'humanitaire et dans l'Église aussi.
Alors à ce sujet, vous racontez la manière dont vous accompagnez certains de ces jeunes et vous laissez entendre qu'en fait, surtout, vous les invitez à s'aimer, à reprendre confiance en eux,
oui.
Et à aimer, et que vous gardez bien de faire de la question de la chasteté un préalable.
Bâtir de grandes amitiés. Sinon, on tombe dans le piège du légalisme, voyez ? Parce que quand on parle de chasteté, manière de dire, on veut bien vous aimer, je caricature, mais jusqu'à la ceinture, mais pas plus bas. Donc, si vous êtes chaste, on vous accueille, et encore, donc l'homophobie est encore très présente, et dans la société, et dans l'Église, et elle l'est chez tous ceux qui proclament cette chasteté comme une loi, et on sait très bien à travers Sodoma, par exemple, ce fameux livre, que ceux qui sont accrochés à cela ont souvent des doubles vies, je dis bien souvent des doubles vies. Et il ne faut pas se voiler la face, on doit rentrer maintenant dans une période de vérité, et accepter les personnes là où elles sont, et puis cheminer vers ce qu'il y a de meilleur pour leur vie, sans menacer. On a trop menacé dans l'Église, et aujourd'hui, ça nous retombe sur la tête. À force de menacer, ça nous retombe sur la tête, et on n'aide pas les gens. Donc, moi, je les invite toujours à vivre de grandes amitiés, et à un moment donné de l'accompagnement, de parler de la chasteté, non pas comme une règle, mais comme une possibilité de maturation humaine. Puis on essaye de chercher ensemble ce que cela veut dire. Mais je ne menace pas au nom du péché la chasteté, mais j'essaye de la montrer comme quelque chose de positif qui fait partie du cheminement humain, en montrant aussi, il ne faut pas se voiler la face non plus, que dans ces relations à la sauvette, dans tous ces milieux gays et homo, ça n'apporte rien. Ça tue les personnes en général.
Je vais citer le pape François sur ce sujet. Un jour, quelqu'un m'a demandé d'une manière provocatrice si j'approuvais l'homosexualité. C'est donc dans cet entretien à la Civiltà Cattolica, d'août 2013, suite à cette expression « Qui suis-je pour juger ?». Je leur ai alors répondu avec une autre question. « Dis-moi, Dieu, quand il regarde une personne homosexuelle, en approuve-t-il l'existence avec affection ou la repousse-t-il en la condamnant ?» Il faut toujours considérer la personne. C'est un vaste sujet et je suis bien heureux de vous avoir sous la main pour éventuellement le réaborder. On aura d'autres occasions. Je veux passer à une autre situation que vous abordez.
Terminer juste par une phrase, je pense, qui est valable pour toutes ces situations. Celui ou celle qui a peu de miséricorde pour les autres, c'est qu'elle a peu de miséricorde pour elle-même.
Voilà, c'est une phrase qui est peu dure à entendre, peut-être. Mais
non, c'est constructif. Il faut chercher pourquoi j'ai pas assez de miséricorde. Qu'est-ce que je n'accepte pas en moi-même ? Que Dieu regarde positivement. Je veux dire, la foi doit m'aider à m'accepter moi-même tel que je suis, sans sombrer dans le péché, bien sûr.
Alors, même si on ne fait pas face à des ruptures de couple, ou si on n'a pas un enfant, une fille ou un fille qui vous annonce son homosexualité, n'importe quel couple doit traverser des crises de croissance. Vous avez un petit volet sur ce sujet, les crises de croissance de la famille. Parlez-nous de ces crises de croissance. Elles sont propres à toute vie humaine.
Elles sont propres à toute vie humaine. Elles évoluent avec la manière d'aimer. Vous savez de ce que nous dit très bien le pape Benoît XVI sur cette belle lettre sur la charité. On évolue toujours dans la vie à travers un amour d'abord éros, qui nous attire vers l'autre, qu'on voudrait que l'autre soit tel que nous on aimerait qu'il soit. On commence toujours par un amour possessif, surtout cet état amoureux. Et puis on va passer à un amour beaucoup plus d'échange, qu'on appelle amour philia. On va dire c'est un amour d'amitié, où on commence dans une vie de couple, dans une vie de famille, à accepter que l'autre ait ses limites, de l'accepter avec ses limites, même si des fois sensiblement il y a des moments où je ne le supporte plus, je ne la supporte plus, et cet amour-là, cet amour philia va aller encore plus plus loin, jusqu'à cet amour de charité dont parle le pape François d'Amour et Laetitia, cet amour agapé qui est un terme du Nouveau Testament, c'est cette charité pure qui fait que je peux aimer l'autre, même si l'autre ne me le rend pas, ne me le rend pas toujours. Je peux accepter ses limites. L'amour agapé, je dirais, c'est un amour qui brille comme une lampe. La lampe, elle brille pour briller. Elle donne. Tandis que dans l'amour Eros, que je dis souvent aux adolescents, je rencontre beaucoup d'adolescents, qui est plutôt un amour chewing-gum. C'est un amour où on colle, on se colle pour peu de temps, et quand il n'y a plus d'arôme, on se décolle, on souffre, il y a des peines de corps, on est comme ligoté par ces peines de corps, on va de nouveau coller à quelqu'un. Mais c'est un amour, cet amour Eros cherche une sécurité dans l'autre, mais ne cherche pas à donner, à se donner à l'autre. Dans une vie de couple, dans une vie de famille, c'est toujours ces stades que l'on traverse continuellement et que l'on retraverse. Alors ces crises de couple sont ponctuées par cela, bien sûr, par l'arrivée des enfants, où il y a un moment donné, on est trop centré sur les enfants et on s'oublie même comme conjoint. Il y a ces moments où les enfants partent, il y a ces moments de la crise du milieu de vie.
Alors, vous parlez aussi de l'acédie. L'acédie, c'est un terme qu'on peut trouver dans des ouvrages spirituels. On a l'impression que parfois, souvent, ça concerne d'abord des moines, des consacrés. D'ailleurs, vous citez Évrard le Pontique, auteur du 4e siècle à ce sujet. Expliquez-nous ce que c'est que l'acédie avant qu'on fasse une deuxième pause et en quoi elle peut toucher aussi à certains moments à la faveur de ces crises de famille.
C'est un état de ras-le-bol, c'est-à-dire on a atteint tous nos rêves, tous nos objectifs, et puis on se retrouve, il y a un moment donné de la vie, on est toujours ensemble, et puis on sait qu'on va petit à petit commencer à vieillir. Et ça commence à faire peur, et on rentre à ce moment-là, soit dans une sorte d'indifférence où chaque conjoint va se trouver personnellement son moyen de détente ou ses sorties, où on risque petit à petit de prendre de la distance, de commencer à se séparer pour aller chercher des plaisirs et des sensations ailleurs, parce que c'est trop dur d'être à la maison. Les enfants sont partis peut-être, ou il y a eu la maladie de quelqu'un de la famille, il y a eu peut-être un décès dans la famille qui, au lieu d'unir, sépare. Tous ces moments où on se demande ce qu'on fait sur la terre, et c'est là où les pubs anti-âge interviennent pour paraître 10 ans de plus, pour avoir un corps svelte, puisqu'aujourd'hui, exister vraiment pour les pubs, c'est être beau, c'est être svelte, c'est avoir une hyperactivité, c'est à être très connecté sur Internet ou sur les réseaux sociaux, etc., etc. Puis finalement, on revient à une quête érotique, je dirais esthétique, du sens de l'amour, et on s'éloigne de la profondeur de l'amour. Dès qu'on rentre dans le désert, au lieu de chercher, comme dit le poète, un puits, et c'est dur de chercher un puits dans le désert, on quitte le désert pour aller chercher des sensations, mais à un moment donné, on va toujours se retrouver dans son désert, frustré et seul face à soi-même. Alors, c'est cela, l'acédie, dont l'étymologie veut dire une certaine torpeur, ennui, découragement, déprime, paresse. Et c'est là et uniquement là que la foi va nous aider. C'est là où on va se tourner vers celui qu'à un moment donné, on a choisi en premier, c'est le Christ. Le Christ dans les sacrements, le Christ dans la prière, le Christ dans l'accompagnement spirituel qui nous dit « tiens ». Tiens, je suis avec toi. Et un jour, tu découvriras une autre profondeur à l'amour. Mais là, on a vraiment besoin de la grâce. On a vraiment besoin de Dieu.
Joël Pralon, Aimer sa famille comme elle est, quelques astuces parues aux éditions des Béatitudes. C'est le titre de l'ouvrage que l'on parcourt ce matin. On va faire une deuxième pause et puis on va aller picorer dans un autre passage pour illustrer le quelques astuces sous-titre de votre livre. Vous donner quelques règles de vie ou quelques conseils plein de tendresse à l'égard des familles et des couples pour mieux s'aimer et puis pour faire advenir peut-être un petit peu du royaume de Dieu dans cette réalité.
Radio Présence, place du Capitole, 97.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Aimer sa famille comme elle est, c'est pour rappel le titre de l'émission Vivante Église de ce jour. Pour ceux qui nous rejoindraient, nous sommes avec Joël Pralon qui est prêtre supérieur du séminaire de Sion et qui est avec nous en duplex depuis Radio Fribourg. Et on parcourt son ouvrage. Alors comme promis, Joël Pralon, dans cette dernière partie, je vous propose d'aller picorer. Il y a un passage où il y a une espèce de condensé de conseils à l'adresse des couples. On sent que votre cœur débordé. Vous avez mis même plein de tirets pour quand même qu'on puisse voir les différents
souffler
items.
Souffler
entre deux. La première chose que vous laissez entendre, et on imagine aussi que c'est votre ministère, j'allais dire votre ministère d'écoute, parce qu'on comprend au fil de ce livre que vous passez beaucoup de temps à écouter. Vous dites que le grand drame, vous laissez entendre que le grand drame de bien des familles, c'est d'abord les multiples malentendus qui tiennent à une mauvaise communication. Expliquez-nous.
Eh bien, le malentendu, c'est ça. Qu'ai-je entendu réellement ? Vous savez que la réalité est tellement difficile à percevoir. Alors, lorsque la réalité est transmise par une parole, c'est encore plus difficile. Le malentendu, c'est ce petit grain de sable dans la relation. Le malentendu qui peut déraper d'une parole entendue autrement ou interprétée négativement et qui blesse. Le problème, c'est un philosophe grec du IIIe siècle, Épictète, lui qui dit qu'on se torture non pas à cause de l'événement ou de la parole entendue, mais de l'interprétation qu'on en fait. On est souvent dans l'interprétation. Les pensées alors s'embrouillent dans la tête, nous torturent, on tourne en rond, on prépare toute la journée sa revanche contre la parole pointue d'un enfant, d'un ado, d'un conjoint le matin. Et voilà, qu'on se rencontre le soir, c'est l'explosion pour entendre l'autre dire « Mais c'est pas ça du tout que je t'ai dit ». Et alors tout le monde s'effondre, rit ou pleure, c'était finalement de l'interprétation. Donc pour éviter, pour lutter contre le malentendu, d'abord il faut prendre soin de l'autre. Moi j'aime à dire qu'aimer, c'est prendre soin de ce qu'il y a de plus fragile dans l'autre. On est des personnes fragiles, il y a en chacun de nous un enfant qui a besoin d'être aimé, qui pleure souvent, qui est fragile, et Dieu se cache dans cet enfant. Et prendre soin de l'autre, de ce qu'il y a de plus fragile, c'est l'écouter. Écouter Dieu aussi qui parle à travers l'autre. Alors, prendre soin de l'autre, l'estimer.
Alors justement, il y a un deuxième item, je nous excuse auprès des auditeurs où je leur demande de nous excuser parce qu'il y a des petits sauts, mais on comprend l'essentiel de votre propos, c'est les aléas du direct. Oui, vous reprenez un passage de l'écriture dans les Romains, rivaliser d'estime réciproque, expliquez-nous.
Estimer l'autre, vous savez que dans la Bible, la première parole humaine, c'est une parole d'émerveillement. Vous savez, quand Adam reçoit sa femme, « Ah, pour le coup, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, et celle-ci sera appelée femme. » Il y a deux choses qui sont importantes. L'émerveillement, qui est une sortie de soi, et qui regarde vraiment que l'autre. Et dans l'émerveillement, j'estime l'autre, je le confirme dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, c'est pourquoi elle sera appelée femme. L'émerveillement va confirmer cette personne en tant que femme. C'est tellement important aussi qu'un papa confirme ses enfants, relève leurs qualités masculines, féminines, et c'est les psychanalystes qui disent précise que l'enfant se ressent garçon ou fille par la parole, par ce que dit son père d'elle ou de lui. C'est tellement important de relever la féminité chez une fille, la masculinité chez ce garçon qui veut ressembler à son père. C'est vraiment dans l'émerveillement, d'abord, qu'on confirme l'autre. Et puis ensuite, dans les paroles dites, c'est ce que je dis dans le livre aussi, mieux vaut redire trois fois la même chose qu'une seule fois, et cette seule fois qui est mal comprise et qui va donner toutes sortes d'interprétations. Donc, utiliser la parole, savoir redire les choses. On est tombé finalement dans l'ornière des habitudes. Hein. Une maman qui fait tous les jours les repas, bon, on est tellement habitué que plus personne ne dit merci au papa aussi, à l'enfant, à l'adolescent. Puis souvent, ça éclate parce que on est avare de ces paroles. Souvent, oui.
Joël Pralon, juste un autre item, hein, parce que je voudrais qu'on en aborde plusieurs.
Oui, oui.
Il y a un autre passage, vous dites « Quand ton conjoint t'énerve, au lieu de lui trouver son défaut, demande-toi d'abord la blessure ou le défaut qu'il est venu gratouiller chez toi. »
Oui.
Qu'est-ce que vous entendez par cette remarque ?
Mais souvent, vous savez, inconsciemment, c'est l'œil et la poutre. Ce qui nous énerve chez l'autre, c'est ce qu'on n'aime pas chez soi-même. Essayez de regarder un petit peu. Souvent, les autres sont notre propre miroir. C'est pour ça qu'ils nous agacent. Donc, ils nous agacent parce qu'on voit chez eux ce qu'on n'aimerait pas voir chez soi et ce que les autres, parfois, nous reprochent. Mais la plupart du temps, c'est inconscient. Donc, c'est un mécanisme de défense psychologique qu'on appelle la projection sur l'autre, que l'évangile de manière morale appelle l'œil et la poutre. Et c'est toujours intéressant de se dire, mais aussi, pourquoi cette personne m'énerve ? Quelle blessure elle éveille ? Parce que inconsciemment, on peut voir dans l'autre des souvenirs qu'on a complètement oubliés, si ce n'est la même émotion qui remonte, des personnes qui nous ont blessés dans l'enfance. On a oublié le visage, mais cette personne fait remonter en moi cette émotion qui m'a fait du mal. Et c'est pourquoi les autres sont aussi révélateurs de nos blessures et peuvent aussi être des portes vers un cheminement de guérison.
Rivaliser d'estime réciproque, donc être attentif quand l'autre nous blesse, imaginer qu'il peut être notre médecin, éviter les malentendus, travailler donc la communication. Il y en a d'autres, des conseils ou des suggestions. Il y en a un important, enfin il y en a, oui, il y a un conseil important, l'humour. Vous dites que l'humour est une clé pour la vie de couple et la vie de famille.
Oui, alors l'humour, attention, ne pas faire de l'humour, ça peut aussi être une fuite. Hein. Toujours faire de l'humour, c'est ce qu'on appelle le pitre, en langage psychologique, celui qui fait toujours le pitre, pour éviter d'entrer dans le fond du problème. Alors il y a des gens qui vous répondent toujours avec humour et ça devient détestable aussi. Mais faire de l'humour, c'est aussi important, reprendre la remarque d'une personne pour éviter de dramatiser et la lui renvoyer avec humour. Et l'humour, je dirais, c'est comme les essuie-glaces d'un pare-brise. Ils nous font sourire et ils nous montrent la réalité, même s'il pleut toujours. Je veux dire, c'est un coup d'essuie-glace sur une pluie qui n'arrête pas.
Alors des conseils, il y en a d'autres. Ne te sers pas de ton conjoint comme une poubelle émotionnelle. Ne pense jamais que cela coule de source. On entend là aussi la communication. Que le couple est un autre centre d'intérêt que les enfants.
Ça, c'est important. Vraiment, ça, c'est important. Je connais beaucoup de couples en crise parce que les enfants ont quitté la maison. Ou par exemple, la maman s'est accrochée aux enfants, tandis que le père s'est accroché à ses sociétés villageoises, au-delà de la famille. Et lorsque les enfants partent, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment pris soin de l'autre. Et là, je le dis toujours aux conjoints, vous ne vous mariez pas avec vos enfants. Ils vont partir. Hein. Vous mariez les deux et vous devez prendre soin l'un de l'autre. Et ça, c'est capital, je pense, pour éviter des grosses crises et des séparations. Pour idéaliser un autre ailleurs ou ce pays lointain où on serait si bien, comme le disait l'enfant prodigue en Luc 15.
Pour finir, vous reprenez un conseil du pape François, je ne le retrouve pas mais je vais le citer de tête,
oui.
Ne jamais se coucher sur un différent. Le pape François le dit souvent à l'adresse des couples, voilà, je retrouve, emportez-vous mais ne commettez pas le péché que le soleil ne se couche sur votre colère, en l'occurrence c'est l'écriture, mais le pape François le cite souvent, il dit même, vous pouvez casser les assiettes mais ne vous couchez pas sans avoir commencé à vous réconcilier.
n'arrive pas à se réconcilier, parce que se réconcilier ne veut pas dire chasser de son cœur toute amertume, mais c'est là le dépassement vers celui qui est cette lumière, ce puissant amour du couple, peut être terminé au lieu parce qu'on va pas toujours se comprendre, hein. On va dire maintenant on arrête et puis on dit à notre Père ensemble. Et ça, je pense que c'est le regard de foi qui permet à Dieu d'apaiser le couple, même si on ne s'est encore pas compris. Et il y a bien des choses que le Seigneur va faire durant la nuit dans le cœur de ces couples, ou ce couple.
Eh ben merci beaucoup Joël Pralong, et pardon auprès des auditeurs à nouveau pour les quelques coupures qu'il y a eu dans ce duplex avec Radio Fribourg. Je rappelle que vous étiez en Suisse.
Oui.
La technique fait des miracles, mais elle n'est pas encore parfaite. Je rappelle le titre de votre livre, donc « Aimer sa famille comme elle est » paru aux éditions des Béatitudes, et deux autres livres que vous avez écrits, qu'on a cités. « Qui suis-je pour juger mon frère » paru aux éditions Saint-Augustin. Mon frère homosexuel, pardon, paru aux éditions Saint-Augustin. Et « Les divorcés et les remariés, invités à la joie de l'amour » du pape François. Soit toujours aux éditions Saint-Augustin, à retrouver. Merci beaucoup.
Mais avec plaisir, belle journée à tous.
Merci, cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Et avant de nous quitter, suivra, ou presque à cette émission, une messe d'enterrement du cardinal Etchegaray, voilà, grand cardinal français décédé, donc, qui était originaire du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron, et qui sera enterré en direct depuis Sainte-Marie de Bayonne. C'est à 10h30, messe d'enterrement du cardinal Etchegaray. Je vous dis à demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Ou par mail à contact@radioprésence.com.